Tout simplement. Aujourd'hui, notre invité est documentariste franco-américain. Il filme depuis plus de 50 ans des institutions et ceux qui les habitent. Aucun lieu ne lui résiste. Un hôpital, la bibliothèque de New York, l'opéra de Paris ou la Comédie française, un commissariat ou encore une usine de viande. À 90 ans, le réalisateur de Titicut Follies, de National Gallery ou encore de Crazy Horse vient d'achever le montage de son nouveau film au long cours, dans et sur la mairie de Boston. C'est Frédéric Wiseman, notre invité.
La grande table. Olivia Gesbert.
Avec nous jusqu'à midi et demi pour une petite grande table à écouter tout de suite ou plus tard si vous le souhaitez en podcast sur franceculture.fr. Frédéric Wiseman, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes depuis toujours un cinéaste qui prend le temps, ce que les gens pensent tout haut, vous le filmez, vous l'enregistrez, vous prenez le temps aussi d'entendre, comme vous le dites souvent, ce que le réel a à nous dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il nous crie tout en silence, ce réel, Frédéric Wiseman?
Je n'ai pas tout à fait compris la question.
Qu'est-ce qu'il vous dit, le réel, aujourd'hui, Frédéric Wiseman?
Moi, je ne suis pas assez prétentieux de dire que je comprends le réel. Moi, quand je tourne, je fais les films, j'essaie de tourner les événements dans la meilleure façon que je peux. Et moi, je crois que je fais les films de fiction, parce que tout est très subjectif, tout est arrangé, tout est très monté. Je crée les narratives dramatiques autour des événements non joués.
Vous pensez qu'on...
Le réel, qu'est-ce que c'est le réel? Ça, c'est quelque chose qui m'échappe.
Et pourtant, vous essayez de l'attraper dans vos films.
Oui, j'essaie de trouver mon version. Mais je hésite à dire que c'est la réalité. C'est mon idée de la réalité des événements que je tourne, c'est tout. Je crois, je ne suis pas ni assez intelligent, ni assez grand philosophe pour dire qu'est-ce que c'est la réalité. Ouh là là, c'est trop grand pour moi.
Vous êtes aussi un cinéaste qui savait prendre le temps, où que vous soyez, où que vous allez, Frédéric Wiseman. Le temps, aujourd'hui, on a l'impression un peu que toutes nos horloges sont chamboulées. Comment vous l'appréhendez? Est-ce que vous avez quand même le sentiment qu'on vit, sans être un philosophe, une simple parenthèse, ou qu'on est quand même dans un vrai moment de transition?
Oui, mais c'est une transition, mais... Je ne suis pas à ma vie normale maintenant parce que je suis isolé dans la campagne et j'ai des rêves de recommencer, mais je ne sais pas si je peux parce que pendant le virus existe, je ne peux pas tourner les films comme j'ai fait autrefois parce que je suis toujours en contact avec 100, 200 personnes par jour. Et on ne peut pas garder la même distance, on ne peut pas garder la propre distance maintenant. Parce qu'on doit rencontrer les gens, on doit dire bonjour, on doit expliquer qu'est-ce qui se passe pour le tournage, on doit demander la permission, on doit mettre le micro sur les vêtements. C'est impossible maintenant pour tourner dans la façon que j'ai tourné depuis 55 ans. Et peut-être la seule chose que je peux tourner, c'est peut-être un petit film de fiction avec un ou deux comédiens. Mais j'attends, comme tout le monde, le vaccin. Le vaccin, c'est peut-être un peu comme Godot, ça n'arrive jamais.
Oui. Alors, en attendant, il faut imaginer aussi ou tourner des films dans sa tête et se demander ce qu'on aimerait peut-être montrer. Est-ce que ça, vous savez aujourd'hui, s'il n'y avait pas ce virus invisible, contagieux, à première vue, c'est vrai que cette crise, elle n'est pas très cinégénique, Frédéric Wiseman. Mais qu'est-ce que vous aimeriez montrer, donner à voir en ce moment?
Oui, mais comme je vous avais dit, je vais me tourner un film sur la mairie de Boston. Mais le problème, c'est très difficile d'imaginer les films que je n'ai pas tournés. Parce que les choses que je trouve quand j'entre dans un endroit où c'est la Comédie Française ou la Porte de Paris ou centre de sécurité sociale ou un hôpital, n'importe, c'est toujours une surprise. Rien n'est prévu. Et tout le tournage est dirigé d'être prêt d'attraper le surprise au pellicule. Et c'est difficile parce que souvent, je ne connais rien des endroits avant que je commence à tourner. Par exemple, je n'ai pas passé le temps dans un centre de sécurité sociale avant que j'étais là. Et quand je suis là, je suis toujours prête à tourner parce qu'on ne sait, on ne peut pas prévoir qu'est-ce qui va passer. Et c'est toujours une surprise. Et c'est exactement cette surprise qu'on veut attraper pour le film. Et comme ça, tout ce que je peux imaginer, restant dans ma chaise très confortable dans la campagne, ce n'est que les clichés. Parce que quand je tourne, je ne tourne presque jamais les choses que j'ai anticipées dans mes fantasmes.
Mais vous l'auriez...
C'est toujours un peu comme Las Vegas.
Un casino.
On prend le risque, on tourne, et la surprise est toujours là. Ça, c'est le plaisir de cette forme de tournage. C'est toujours un grand risque. Et si on est chanceuse et un peu de bon jugement, on peut arriver à un film. Mais rien... La base de système, de mon système, c'est on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va passer. L'instant que je pense que je peux prédire, c'est l'instant que je dois arrêter.
Vous la placeriez où, votre caméra, aujourd'hui? Dans quel lieu? Dans quel espace?
Si j'ai le courage, que je n'ai pas, je vais tourner dans les hôpitaux, pas simplement avec les malades, mais aussi avec les infirmiers, les médecins et tous les gens qui prennent de grands risques d'aider les autres. Et l'histoire n'est pas que les malades, naturellement c'est très important, mais c'est les gens qui risquent leur vie pour aider les autres. Et il faut une combinaison de tout ce qui se passe. Si j'étais dans l'urgence ou dans le soin intensif d'un hôpital à Paris, je vais essayer de montrer tout ce que je vois. Mais comme je ne suis pas là, c'est difficile de dire exactement. On ne demande jamais aux gens de répéter les choses. Sauf que les événements sont similaires, on n'est qu'une possibilité de tourner un événement. Et on fait le mieux qu'on peut faire. Mais avec l'idée qu'on doit faire une représentation, même si c'est objectif, de tout ce que je vois.
C'est dans la rue que votre camarade documentariste Nicolas Philibert dit vouloir placer sa caméra le jour où il recommencera à tourner, ou s'il avait pu tourner dans ces dernières semaines. La pandémie, vue par lui, le réalisateur aussi de Chaque Instant, qui montrait la formation d'élèves infirmiers et infirmières, bien sûr, un film sorti en 2018. Sa réaction au micro de notre confrère Vincent Josse.
Je trouverais très intéressant aujourd'hui, de filmer la rue, la façon qu'ont les gens de se croiser, de se regarder, ou pas, de s'éviter. En réalité, ces jours-ci, j'ai tourné quelque chose chez moi. Il se trouve que, il y a 2 semaines et demie, ma mère a eu 100 ans, et j'ai eu envie de faire quelque chose sur ce centenaire qu'on a célébré, je dirais, à distance, d'une façon un peu virtuelle. C'est pas dans mes habitudes de tourner la caméra vers moi, de me filmer moi-même. Donc c'est un peu nouveau pour moi. Comme quoi cette situation va amener beaucoup de gens à être inventifs, à, à faire autrement, à rompre avec certaines pratiques, à avoir une forme d'audace peut-être, à se faire peur, et ce en quoi c'est assez stimulant finalement.
Voilà, Nicolas Philibert, dans une démarche plus intimiste, plus impudique, comme il dit, pour la première fois. Est-ce que pour vous aussi, Frédéric Wiseman, le confinement a été un exercice d'immersion en vous-même?
Non, Nicolas est beaucoup plus beau que moi. Moi, je ne veux pas me filmer.
Vous ne voulez pas aller voir à l'intérieur?
Non.
Ce qui se dit, ce qui se passe.
Moi, actuellement, je déteste être filmé. J'admire le choix que Nicolas a fait, mais ce n'est pas pour moi. Moi, je trouve les autres beaucoup plus intéressants que moi. Mm. Et si je ne peux pas filmer dans mon façon habituelle, je préfère de faire autre chose. Un petit film de fiction, jusqu'à le moment où je peux filmer comme habitude.
La fiction.
Non, je n'ai aucun intérêt de filmer moi-même.
À essayer de comprendre ce qui se joue. Aussi, lui parle de ses rapports avec sa mère, notamment. Rarement vous avez tourné, Frédéric Wiseman, un film, une fois monté, de moins de 3 heures. Wiseman est le parfait partenaire du cloîtré, ayant du temps et de la curiosité à revendre. Voilà ce qu'ont écrit à votre sujet nos confrères des Inrocks pour annoncer la mise en ligne de l'intégralité de votre œuvre sur la plateforme de VOD Universciné. Vous avez le sentiment de pratiquer depuis plus d'une cinquantaine d'années un cinéma de confinement, du confinement, dans le sens où vous explorez aussi des institutions, des lieux clos, souvent fermés.
Oui, non, oui, mais pas. Les deux endroits que j'ai filmé qui étaient complètement fermés, c'est la prison où j'ai tourné Tillicott Fallon, c'est une prison pour les criminels fous, et aussi le soin intensif à la hôpital Beth Israel à Boston. En général, c'est un bâtiment ou une série de bâtiments, et je tourne tout ce qui se passe comme à l'Opéra de Paris ou à la Comédie Française. Par exemple, à la Comédie Française, j'ai tourné à la salle Richelieu, à la Vieux Colombier, et le petit salle, et un peu dans les roues pour l'Opéra de Paris. J'ai tourné que l'Opéra Gagné, l'Opéra Bastille, et une maison pour les gens âgés à l'extérieur. Mais ce n'est pas vraiment enfermé dans le sens que c'est un huis clos.
Alors c'est dans quel sens? Que c'est quand même un espace délimité.
C'est enfermé parce que il y a toujours une limite géographique où je tourne. Par exemple, à l'Opéra Gagné, ou à l'Opéra Bastille, ou le Salle Richelieu. Pour ces films, pour l'opéra et pour la danse et pour le film sur la comédie, je n'ai pas, sauf quelques petits plans, pour établir où est le bâtiment. Je n'ai pas sorti de le bâtiment. Et ce n'est pas un endroit complètement fermé, parce que les gens peuvent arriver, qu'on ne peut pas, il y a le visiteur, le public, etc. Mais une prison est complètement enfermée. Un soin intensif, c'est vraiment enfermé. Mais moi, je tourne toujours dans les endroits où il y a beaucoup de gens qui viennent et qui partent tous les journées. Ils ne sont pas enfermés. Mais disons ça, j'essaie toujours de donner une idée comment l'institution, l'endroit est réglé, quelles sont des lois, quels sont des centres de pouvoir, qui sont des gens qui exercisent le pouvoir. quelles sont les relations entre les gens qui travaillent là-bas, quel est le système de classe qui existe dans l'endroit, quel est le quotidien. Mais c'est toujours une limite géographique, parce qu'autrement, le choix est trop grand.
Oui, chacun de vos films, vous venez de le rappeler, hein, s'inscrit toujours dans un cadre, dans un espace géographique et social délimité. Sinon, dites-vous, le choix serait trop grand. C'est un quartier, c'est un hôpital, c'est un asile, c'est un musée, c'est un théâtre, c'est un club de boxe. Retour cette fois dans votre ville natale, au Boston City Hall. C'est le cadre de votre 46e documentaire que vous avez fini de tourner, de monter. Cet hôtel de ville construit à la fin des années 60 par les architectes Kalman et McKinnell, assez massif, assez froid vu de l'extérieur. Pourquoi vous êtes-vous rendu là-bas, Frédéric Wiseman? Quelle forme de vie vous avez voulu observer à l'intérieur?
Oh, parce que moi j'ai cru que la mairie, une mairie, touche tous les aspects de la vie de les citoyens. Il y a un lien beaucoup plus direct entre la mairie et les citoyens qu'avec le gouvernement fédéral ou le gouvernement de la région ou le gouvernement de l'État. Parce que ça contrôle tous les services, la naissance, le mariage, l'amour, la licence de restaurant, le permis de conduire, les problèmes de santé, les polices, les pompiers, les urgences, la lumière sur les roues, les problèmes de trafic. Toutes les choses quotidiennes sont réglées par la mairie. Et nous les citoyens, nous les homo sapiens, nous avons besoin des services. Et le mairie de Boston, c'est un bon exemple. Le maire est le anti-Trump parce qu'il s'occupe avec les gens, il s'intéresse à offrir les services. Il n'est pas, il n'y a aucune corruption. Et il est tout à fait le contraire de notre président psychopathe, M. Trump. Et c'est une bonne... Moi, je n'ai pas connu tout ça avant que j'ai tourné le film, mais c'est ce que j'ai trouvé. Et c'est ce que le film montre. Parce que, bon, moi, les gens, les homo sapiens, nous avons besoin de règlements. Parce que les gens, on a besoin des gens qui règlent notre existence, nous donnent une limite de ce qu'on peut faire et aussi en demain, c'est ce qu'on doit faire. Et la mairie, c'est une des institutions politiques qui offre ses services. Et la mairie de Boston, c'est un très bon exemple. De cette sorte de choses et c'est une mairie qui fonctionne je l'ai déjà dit mais je l'ai dit une autre fois c'est tout à fait le contraire de notre gouvernement fédéral.
Le gouvernement français, une parenthèse, Frédéric Wiseman, on a vu aussi la place des maires et des mairies, des grandes, mais aussi des petites mairies dans les petites communes, plus petites communes, essentielles durant la crise. Et là encore, depuis le début de ce déconfinement qui a lieu en France dans la mise en place et le redémarrage de la vie collective et de la vie sociale, notamment du côté des écoles et pas que. Le gouvernement français travaille apparemment à une réouverture des salles de cinéma début juillet. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Culture, Franck Riester, hier. Une sortie en salle prochaine de votre film, vous l'espérez, elle est imaginable, sur la mairie de Boston, le Boston City Hall.
Oui, mais je suis un peu pris parce que je vois bien que mon film sorte. Mais j'avais peur quand le confinement il y a moins de gens isolés, j'avais peur que le virus va monter. Et je suis loin d'être médecin, Mais c'est le... Je crois que ce n'est pas nécessaire d'être très intelligent de penser que si le virus existe et les gens sont en contact, ils ne gardent pas le social distance, que le virus va monter encore. Mais j'espère que je n'ai pas raison.
Mais sinon quoi, le film sera diffusé à la télé s'il ne peut pas sortir en salle?
Oui, s'il ne sort pas en salle, ça va sortir en télé et en streaming, VOD.
Et ce sera comme ça.
Video on demand. Mm. Mais j'espère, moi je préfère beaucoup que les gens puissent voir le film sur un grand écran, mais si ce n'est pas possible, je vais essayer d'arranger que le film sorte en télévision. Mais il y a toute une question, comment on peut garder le social distance dans les salles de cinéma? Si on essaie de le faire, un cinéma, si 500 personnes peuvent entrer dans un cinéma, ou c'est peut-être 600 personnes, maintenant, le plus que ce serait 100 personnes, parce que ça doit une distance au moins de 3 mètres entre les gens. Mmh.
Devant, derrière et à gauche et à droite. Oui, c'est un casse-tête.
Oui, et ça serait difficile pour les cinémas de gagner assez d'argent pour continuer. Mmh. C'est pour ça que à mon avis, qui n'est pas un avis très informé, on a conquis le virus, le virus ne vient pas au normal.
Ouais. Oui, alors voilà, distanciation sociale, c'est aussi ce qui nous oblige à vous garder à distance aujourd'hui, ce midi, Frédéric Wiseman, pardon, aux auditeurs, pour cette qualité sonore dégradée par rapport aux conditions habituelles. Mais plaisir de vous avoir. Vous restez avec nous, France Culture, il est midi 22. On va écouter une actualité musicale, c'est Baxter Dury.
Infectious lips and slips and smiles, blogs and dresses, drugs and tales. There's nowhere deep to swim, only selected friends with funny names. Free drinks for the pencil thin, and there's nowhere that are swans and patios. There's nowhere deep to swim, and the great writers of fashion. Bakelite staircase where I will prosy.
Le Britannique Baxter Dury nous réveille avec Sleep People. Son nouveau disque est dans les bacs et ses concerts attendus très prochainement, notamment à la Gaîté Lyrique à Paris, sont finalement reportés. Une date a déjà été avancée. Ce sera en octobre 2020. Invité de cette petite grande table du jeudi, le documentariste et cinéaste Frédéric Wiseman. Depuis 50 ans, vous avez beaucoup filmé l'Amérique, vous le racontiez, et son système de soins. Premier film dans un asile, c'était Titicut Folie. l'église en 67, puis le Metropolitan Hospital de New York en 70. Je pense aussi bien sûr à Near Death, 358 minutes, près de 6 heures dans un service de soins intensifs. On en écoute un extrait.
I guess I don't see the point in doing any of that because I agree this is a surgical disease, and if they're not going to do surgery, I don't understand. I think the point of prolonging.
Yeah, I mean, I think that you know, go ahead and take a look, quick look at her, and I don't know. You know, what's happened with these, DNR rules and everything, and you know, over the last 5 years, really makes, you know, puts you in a difficult situation. I mean, I think that I would feel very comfortable in terms of everything being everything that we've done already.
Yeah.
Là, on assiste à une discussion entre médecins dans un couloir. Je ne comprends pas pourquoi on fait tout ça. Après tout, c'est un problème chirurgical. Et s'il n'opère pas, alors pourquoi prolonger la vie, hein, pour prolonger sa vie? C'est dans ce film le dilemme du soignant face à la presque mort que vous montriez, Frédéric Wiseman, le quotidien d'un service de soins intensifs. Ne pas pouvoir accompagner ses proches dans la maladie, à l'hôpital, dans la vieillesse, dans un EHPAD ou dans la mort. En ce moment, c'est aussi ce que nous vivons avec cette pandémie. Et c'est ça qui est particulièrement violent. Vous ne trouvez pas, Frédéric Wiseman?
Oui, non, mais c'est vrai. À l'époque où j'ai tourné ce film, c'était 87, je crois. À cet hôpital, il y avait un protocole qui garde, si c'était possible, il garde les malades qui sont en train de mourir vivants, jusqu'à où le malade, ou si le malade n'était pas conscient, la famille donne le accord que le malade peut mourir. Et c'est une façon, et c'est très, très, très démocratique, parce que tout le monde participe dans la décision. Les médecins, les infirmiers, la famille, et le malade aussi, s'il ou elle était conscient. Et j'étais beaucoup frappé parce qu'autrefois en Amérique, dans beaucoup d'hôpitaux, moi je connais que plusieurs, c'est toujours le médecin qui prend la décision. Comme on dit en anglais, doctor knows best. Mais maintenant, c'est une décision à la Beth Israel à cette époque, c'est une décision démocratique. Et avec le virus, on ne peut pas faire ça parce que la famille ne peut pas participer. Et je n'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe en France si avant le virus, c'est une décision prise ensemble ou c'était toujours le médecin qui prend la décision.
Il y a des débats et c'est en permanence sujet de discussion en France aussi avec la loi de bioéthique aussi qui retraite de ces questions-là. J'ai pas cité un autre de vos films importants, Welfare, film de 75, où vous montriez et racontiez le système de santé américain, système de santé qui s'est révélé un peu sans surprise être le talon d'Achille de la puissance américaine ces dernières semaines, extrêmement inégalitaire, 28 millions de personnes privées d'assurance maladie selon la fondation Kaiser Family. On voit un pays pas prêt, lui aussi, à affronter une telle vague pandémique. Merci beaucoup à vous, Frédéric Wiseman, d'avoir été avec nous. Nous étions aujourd'hui encore en partenariat avec France Télévisions qui, sur sa plateforme, diffuse une trentaine de films présentés lors des quinzaines des réalisateurs à Cannes. Merci Frédéric Wiseman, très bel après-midi à tous.